On va commencer tout d'abord par donner une définition de qu'est-ce que la cyberviolence. Parce que je vous ai donné, en fait, un témoignage que j'avais vécu de quand j'avais subi de la cyberviolence. Mais en réalité, c'est quoi la cyberviolence? C'est important vraiment, c'est souvent ça qu'on fait là, en histoire et dans les sciences humaines en général. Même, je vous dirais, dans le monde universitaire, toutes disciplines confondues. C'est important, avant de commencer toute discussion, avant de commencer toute chose, de bien définir ces concepts. Même dans mes présentations à la job, moi, je travaille pour une entreprise privée en gestion de l'information. Et chaque fois que je fais des présentations à des collègues ou à une équipe, je définis toujours mes concepts. Mes présentations, là, j'amène toujours une définition de concept avant même de commencer la réunion. Fait que c'est important de le faire. Donc, c'est quoi la cyberviolence? La cyberviolence, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France, c'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe au moyen de courriels, SMS, réseaux sociaux, jeux en ligne, etc. Elle présente des spécificités liées aux médias numériques, capacité de dissémination vers un large public, caractère incessant, difficulté d'identifier l'auteur et d'agir une fois les messages diffusés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette définition-là? On va vraiment essayer de la décortiquer. C'est que dans le fond, si on décortique les deux mots, on a « cyber » et on a « violence ». Deux mots qui forment un terme. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que tout d'abord, on a le concept de « violence ». Et la violence, c'est quoi? C'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe. Peu importe le motif, peu importe la raison derrière l'acte de violence, il y a une personne qui décide, pour une raison ou une autre, et pour une intention mal intentionnée qui, dans sa tête, peut passer aussi pour une bonne intention, parce qu'il y a personne qui, je pense, intentionnellement, essaye de faire le mal. Il y a des philosophes qui croient que l'humain est foncièrement mauvais et fait le mal en étant conscient de le faire. D'autres qui pensent au contraire que l'humain est un être de bonne nature, qui pense faire le bien, mais qui va faire le mal en pensant faire le bien. Moi, je suis plus dans cette définition-là. Donc, à ce moment-là, c'est un acte, peu importe l'intention, peu importe le contexte et la raison autour, qui va être agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe. Et là, toute l'aspect cyber va vraiment être lié aux médias numériques, comme ça le dit dans la deuxième partie de la définition. Donc, ça va être un acte qui va être commis au moyen de courriels, de SMS, réseaux sociaux, jeux en ligne. Je savais que tu allais reconnaître la référence, les histoires, oui. Je pensais à ces deux-là, entre autres. Et autre plateforme qui est numérique. L'important, en fait, pour parler vraiment de cyberviolence, c'est qu'il faut que ce soit fait avec le numérique. Ça, c'est bien important de le distinguer. Et ce qui est vraiment dangereux, en fait, avec la cyberviolence, c'est que, justement, il y a une capacité de publication très large. Et les médias numériques, autant que c'est bénéfique et que c'est positif pour la société, je pense, autant que ça peut être négatif au sens où ça donne un très grand pouvoir à des gens qui devraient peut-être pas l'avoir, au sens où justement, quand c'est utilisé pour faire un acte agressif intentionnel contre un individu ou un groupe, ben les médias sociaux et les plateformes numériques peuvent être extrêmement puissantes, et pas puissantes dans le bon sens. Parce que justement, ça donne une voix à un individu ou à un groupe qui peut être négatif pour plusieurs personnes. Parce que l'effet de propagation est très 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 intense et très 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 facilitant dans tout ce qui est médias numériques. Et parfois, c'est difficile d'identifier l'auteur d'une publication. Hein? Combien de fois, probablement, vous tous dans le chat, vous avez vu des publications que vous n'étiez pas sûr d'où provenait la source, qui avait relayé l'info, ça partait de qui. Parce que le bouche à oreille et la chaîne de transmission, elle est très rapide et très, très, très confuse et difficile à identifier. Puis c'est difficile, là, justement, d'agir un peu contre l'auteur de ces publications-là. Versus avant, avec nos anciens moyens technologiques, où c'était plus facile de retracer l'auteur. Donc, la cyberviolence, si on résume, c'est un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe au moyen de technologies numériques qui ont un effet de propagation très, très, très rapide. Donc, voici ce qu'est la cyberviolence. Et bien, encore une fois, j'ai tiré la définition en fait du site web du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France. C'est une définition qui est vraiment d'actualité. J'essaye de citer mes sources le plus possible. Donc, maintenant parlons du discours de haine, parce que là on a posé la définition en fait de la cyberviolence qui est l'acte agressif, mais l'acte agressif il se caractérise par quoi? Il va se caractériser par un geste bien souvent parlé, que ce soit par les mots par écrit, que ce soit par les mots verbales, les mots parlés, ça va être vraiment, il va y avoir un discours derrière, ce qu'on appelle un discours. Et un discours de haine, selon l'Organisation des Nations Unies, j'ai oublié mon mot majuscule, je vais aller le corriger. Petite coquille. C'est tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Et dans cette définition-là, il y a plein d'exemples qu'on peut donner où il y a eu des discours de haine. Je dirais que le point culminant, mettons, de l'histoire récente qu'on a eu au Québec, du moins par rapport à ça, c'est tout le débat qui entourait la fameuse Charte des valeurs québécoises en 2013. Je sais pas si vous vous rappelez, quand le gouvernement de Pauline Marois, nouvellement élu après le printemps érable et... Salut Ghost, qui ajoute un peu des pickness dans la chronique. Bon matin Ghost. J'espère que tu vas bien. Désolé, je t'ai coupé, il n'y a pas de problème. C'est pas une chronique enregistrée en ce moment, donc là, j'ai pas coupé aucun SFX. Là. C'est vraiment la bonne franquette. Donc, finalement, c'est ça. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Puis, je pense qu'un point culminant qu'on a au Québec, c'était vraiment toute la période entourant la Charte des valeurs québécoises. Je sais pas si vous vous rappelez, justement, le gouvernement de Pauline Marois, nouvellement élu après la crise du printemps érable, puis toute la grève entourant le mouvement Carré Rouge, la hausse des frais de scolarité et tout ça. Dans lequel, moi, personnellement, j'étais impliqué, j'ai participé à ce mouvement-là et j'ai vécu ça. Là, je commençais à peine mon parcours universitaire à l'époque. Là, je finissais ma première année d'université. Et tout de suite, on était embarqué là, dans tout ce conflit-là. Et vous l'avez probablement tout vécu de près ou de loin, là, dépendamment quel âge vous aviez et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là. Par après, le gouvernement Marois a été élu. Ils ont battu le gouvernement Charest qui avait accumulé quasiment presque 10 ans non-stop de pouvoir. Et par après, un des grands projets structurants du gouvernement Marois, c'était le débat entourant la Charte des valeurs. Et la fameuse Charte des valeurs qui avait été proposée à l'époque par le ministre Bernard Drainville, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation dans la CAQ, c'était un projet de charte qui entendait laïciser l'État. Et entre autres, ça posait la polémique, en fait, ça s'est venu amener une polémique par rapport au port des signes religieux dans les écoles, dans les ministères et organisations publiques. Donc, c'est venu amener tout ça, finalement. Donc, à ce moment-là, ce que ça a amené dans la société, c'est qu'on a utilisé ce débat-là pour... certaines personnes, en fait, ont instrumentalisé ce débat-là pour l'orienter vers une des minorités culturelles qu'on a au Québec, c'est-à-dire toutes les personnes d'origine arabe, de près ou de loin. Particulièrement celles où les femmes portent un voile, portent un hijab, portent un niqab ou peu importe le type de voile finalement. Donc là, ce que ça a fait, c'est que c'est tranquillement venu stigmatiser ces personnes-là et a commencé à se construire, entre autres en ayant le lointain souvenir du World Trade Center en 2001. T'sais, vous vous souvenez l'explosion des tours avec Al-Qaïda, l'Afghanistan et tout ce brouhaha-là finalement qui est arrivé au début des années 2000. Parce que ça l'a fait, c'est que ça a amené un peu une continuité de cette méfiance-là qu'on avait à partir du début des années 2000 envers les gens d'origine arabe, pour le mentionner au sens large. Et là, ce que ça l'a fait graduellement, c'est qu'il y a des gens qui ont pris ce discours-là pour aller stigmatiser et construire un discours de haine envers ces personnes-là, basé sur leur appartenance religieuse, leur nationalité, leur race, leur couleur de peau, etc., etc. Fait que ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple que je peux vous donner, Mimi Cosy en parlait un peu, justement, un peu plus haut, elle disait que tous les genres, en fait, recevaient de l'intimidation, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les trans, les gens qui sont homosexuels, lesbiennes, ou en tout cas, peu importe leur orientation sexuelle et peu importe leur identité de genre, tout le monde reçoit de l'intimidation. À ce moment-là, je vous dirais qu'il y a un discours de haine également qui s'est forgé dans les dernières années autour de ces personnes-là. Des gens, justement, qui vont créer des types de communication, que ce soit orale ou écrite, et qui vont se servir des médias numériques, parfois, pour répandre un discours de haine envers les personnes basées sur, justement, leur genre ou leur orientation sexuelle. Puis à ce moment-là, la forme que ça va prendre, ça peut être très varié. Là. Ça peut être un mème sur Internet qui va rire de ces personnes-là, mais de manière très noire et très sous-entendue, comme quoi ils n'aiment pas ces personnes-là. Souvent, ça va passer en termes de blague, mais quand tu vas voir un peu l'intensité de la blague, puis le graphisme des fois là, assez intense de l'image qui en ressort, souvent, ce que ça va donner, c'est vraiment comme de la haine déguisée en blague. Des fois, c'est dur à détecter, hein, parce que des fois, la ligne est mince entre une blague simplement pour rire et sensibiliser sur ce sujet-là. Parce que souvent, il y a des gens qui sont de l'école, puis je suis un peu de cette école-là aussi, de prendre les stéréotypes sur un genre, une orientation sexuelle, une race, un peuple, une religion, peu importe, d'en faire des blagues pour montrer à quel point c'est ridicule et stéréotypé, puis puis à quel point c'est pas ça la réalité, t'sais, puis que justement, il faut pas aller vers cette ligne-là. Sensibiliser par le rire et l'exemple extrême pour montrer « Hey, voici ce qu'il faut pas faire », c'est une tactique de sensibilisation aussi. Qui est malheureusement assez controversée aujourd'hui parce que, ben, il y a un autre mouvement, on pourra en reparler dans une autre chronique, de cancel culture, justement, qui aime moins un peu ce type d'humour-là. C'est très délicat, comme type d'humour, c'est très délicat. Oui, les sikhs existent depuis le 15e siècle. Ah, merci pour le complément d'info, Dragon. J'étais plus sûr de quelle époque. Définition du discours de haine qui rejoint celle de cyberviolence. Fait que la cyberviolence, c'est l'acte, commettre un acte agressif et intentionnel, contre un individu ou un groupe au moyen du numérique. Et le discours de haine, c'est un peu ce qui vient feeder l'acte de cyberviolence. C'est-à-dire que c'est un type de communication orale ou écrite qui va être orienté avec un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe, à l'égard de son identité, son genre, son orientation sexuelle, peu importe. Et la cyberviolence et le discours de haine, déjà en soi, c'est dangereux. Mais il y a une autre dynamique et une autre définition qu'on va regarder aujourd'hui qui, lorsque c'est amené dans l'acte de cyberviolence fidé par le discours de haine, c'est là que ça peut devenir extrêmement dangereux et créer des mouvements qui peuvent avoir des conséquences négatives en société. C'est-à-dire la propagande. Et la propagande, selon une des personnes, un des grands instigateurs du 20e siècle, d'un des pires discours de haine et une des pires institutionnalisations de l'histoire, de la haine et de la ségrégation des minorités, Adolf Hitler, la propagande, selon lui-même, c'est la définition qu'il a mis dans son livre Mein Kampf, qu'il a écrit en 1926, ça vise à imposer une doctrine à tout un peuple. La propagande agit sur l'opinion publique à partir d'une idée et la rend mûre pour la victoire de cette idée. Et la raison pour laquelle je vous ai sorti la définition de Hitler lui-même, c'est pas parce que je veux mettre en valeur en fait les propos de Hitler ou montrer à quel point il était intelligent. C'est pas pour le valoriser du tout, mais pas du tout. Mais c'est pour vous montrer à quel point ce gars-là, qui a été l'instigateur d'un des mouvements les plus atroces en termes de haine envers les minorités puis envers les gens là, justement d'une religion, d'une foi différente, d'une race différente, d'une couleur de peau, orientation différente, puis qui a vraiment été un de ceux qui a entretenu des discours raciaux les plus terribles du 20e siècle. C'est pour vous dire à quel point, comment il voyait la propagande et à quel point, ben, dans ce cas-ci, il avait raison. C'est rare qu'on va donner raison à Hitler, là, mais dans ce cas-ci, il avait raison. C'est ça, la propagande. C'est vraiment une espèce de mouvement qui va soit être institutionnel ou non, c'est-à-dire qu'on va créer carrément des institutions, des organisations qui vont organiser la propagande, qu'on appelle donc organiser l'acte de violence et le discours de haine et le propager. Ça le dit dans le mot, hein, propagande, donc c'est l'action vraiment de propager et d'imposer à ce moment-là, soit subtilement ou directement, une idée à l'échelle collective, à l'échelle sociétale. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment la bonne définition de la propagande, en fait. Puis, vu que là, on parle du discours de haine et de la propagande à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ben, je trouvais ça approprié, là, justement, de tirer la définition du fameux livre de Hitler, c'est-à-dire Mein Kampf, son livre de propagande qu'il avait écrit pour rallier les gens à l'époque de l'Allemagne nazie autour de ses idées, plusieurs années avant qu'il soit élu chancelier, justement, donc avant 1933. Un livre très lourd à lire, mais à mon sens, très intéressant pour comprendre la place de l'antisémitisme de l'époque. Ouais, vraiment. Son ennemi en faisait, les Russes sont pros sur ça, ouais. Ouais, les Russes aussi ont un discours de propagande. Tout mouvement, en fait, moindrement extrême, a un discours de propagande. On peut attribuer, en fait, la même définition puis la même dynamique, hein, de violence, de haine et de propagande. On peut l'appliquer à n'importe quel mouvement totalitaire ou extrême. On peut l'appliquer à la Russie soviétique. On peut l'appliquer aux dictatures de l'Amérique du Sud. On peut l'appliquer à Mao Zedong en Chine. On peut l'appliquer même au Japon de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait un discours très proche de celui des nazis, justement, là, l'Empire japonais à l'époque. Là, on prend vraiment Hitler, l'Allemagne nazie comme exemple, mais on peut vraiment prendre le même exemple pour plein d'autres cas, là, en réalité. Donc, admettons, Andrew Tate fait de la propagande, ce qui amène des discours de haine et donc il y a plus de cyberviolence envers les femmes. Ça marcherait-tu? Oui, ça pourrait marcher. Mais il y a deux réalités à comprendre là-dedans, par exemple. Parce que si tu regardes un peu le discours d'Andrew Tate, à première vue, quand on regarde un peu les tweets et la propagande de Andrew Tate, ce qu'il va propager, en fait, c'est vraiment une idée, en fait, du mâle alpha, de comment il doit se comporter en société, notamment envers les femmes. Il va pas dire directement, genre, les femmes, c'est des objets, ben bon, des fois, il le dit directement, là. Des fois, il le dit directement, là, mais mettons dans ses communications les plus indirectes, on va dire ça comme ça. La plupart du temps, il est indirect, là. Il y a une couple de fois, il s'est échappé puis il a dit des propos très directs. Mais la plupart du temps, on s'entend, là, il est quand même assez indirect dans ses propos. Souvent, ça va paraître comme étant genre l'homme doit être fort, l'homme doit être indépendant, il doit être ci, il doit être ça. Puis là, dès que ça touche à comment l'homme doit se comporter avec les femmes, oh là, ça commence à être négatif un peu. Fait qu'à ce moment-là, sur le coup, quelqu'un qui tombe là-dessus sans être vraiment conscient de qui est le personnage et quelle est sa pensée, sans voir tout le contexte autour, ben, il va arriver et il va dire « Ah, ben ce gars-là qui a l'air d'avoir réussi, il a de l'argent, il est beau bonhomme, il est cut, il est shapé. » Puis tu sais, c'est comme l'idéal un peu de comment un homme doit réussir, finalement, là, un peu l'idéal rêve américain, si on peut dire comme ça, finalement, de l'homme qui réussit en société. Qui est beau, qui est riche, qui est shapé, qui a un spack, en tout cas, tu sais, l'espèce de stéréotype. Ben là, ces gens-là vont voir ça. Ben, les gens en général vont voir ça, puis vont se dire, OK, c'est un gars qui a l'air d'avoir réussi dans la vie, qui est beau bonhomme, puis tout ça, puis qui dit aux gars comment ils doivent être plus hot, en gros. Et là, après ça, ben, il va amener plusieurs notions où, finalement, il va créer une espèce d'idéal de mâle alpha qui va se comporter avec les femmes de manière un peu. Assez négative, en fait, envers les femmes, qui va souvent amener à les minoriser par rapport aux gars, puis en tout cas, bref. Fait qu'il va construire un certain discours qui, des fois, va être direct, des fois, va être indirect. Puis, effectivement, on peut appeler ça de la propagande au sens où, vraiment, il va avoir un peu son idée de qu'est-ce que doit être un mâle alpha, entre guillemets, et de comment il doit se comporter en société et comment il doit aller vers les femmes, finalement, comment il doit se comporter envers les femmes. Là, il va propager ça, justement, sur ses médias sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok, etc. C'était pas mal ses trois médias sociaux principaux. Et après ça, ben, les gens qui vont consommer ça, ben, il y a des gens, c'est pas tout le monde encore là, parce que, comme dans tout type de communication, t'as un émetteur et t'as un récepteur. L'émetteur, il peut dire ce qu'il veut, mais comment le récepteur va assimiler l'information et comment il va l'appliquer dans sa propre vie, là, c'est une dimension complètement différente. Parce que là, dans les trois concepts que j'ai amenés, soit celui de cyberviolence, le discours de haine et la propagande, tout ça, c'est des notions de communication qui partent de l'émetteur en communication. Alors que le transmetteur, ben en fait, le récepteur, celui qui reçoit le discours et la propagande, ben il peut en faire ce qu'il veut. Il peut dire « c'est complètement de la merde, moi j'adhère pas à ça ». Il peut dire « j'adhère 100% à ça, je suis totalement d'accord ». Et il peut dire aussi « ben je suis d'accord avec certains trucs, mais d'autres vraiment pas ». Fait qu'à ce moment-là, oui, t'sais, l'opération qu'Andrew Tate y fait, pour reprendre ton exemple, peut amener effectivement de la cyberviolence et un discours de haine envers les femmes. Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir ça, surtout si, mettons, t'es un gars, exemple, qui a toujours été isolé toute ta vie, ta mère t'a pas bien traité, t'as jamais eu de chance avec les femmes, t'as jamais eu de blonde, t'es rendu, je sais pas, moi, mettons, à 30-40 ans, puis t'sais, je pose l'exemple à l'extrême pour illustrer le propos, là. Bref, mettons, un incel, entre guillemets, classique, peut recevoir ça, puis alimenter un peu son discours de haine envers les femmes. Mais là, rendu là, ça touche à la deuxième dimension, qui est dans la dimension de la réception d'informations et de qu'est-ce que le récepteur va en faire, finalement. Tu comprends? Mais ton exemple est très bon. Ton exemple est très bon, par exemple. Tu répondais-tu à mes questions ou questions slash commentaires? La propagande, on voit ça souvent... Excuse-moi, j'avais pas vu Ghost. La propagande, on voit ça souvent dans les jeux. Ça me fait penser vite fait à Far Cry ou quelque chose du genre. Je sais pas si c'est un lien ou hasard. Ben effectivement, la propagande est traitée dans les jeux vidéo puis t'amènes un très bon exemple avec Far Cry Ghost. Puis je t'en félicite vraiment d'amener cet exemple-là, là. Parce que dans Far Cry, effectivement, c'est un exemple flagrant de propagande. Puis là, en plus, si je prends Far Cry 5 en exemple, t'amènes un exemple avec de la religion et un culte. Que ce soit, mettons, les Raéliens, que ce soit le culte qu'on voit dans Far Cry 5, il y a une dimension de discours et de propagande, en fait, aussi chez ces gens-là. Par contre, des fois, ça va être un discours de haine, mais dans ce cas-ci, ça va surtout, quand ça touche le religieux, puis... concentre ça autour d'une espèce de gourou élu divin qui rassemble des disciples. Là, ça va être plus dans une dynamique de rassemblement collectif, pour vraiment rassembler les gens puis leur dire « paix, amour, tout le monde, croyez en le vrai Dieu, blablabla ». Bref, un peu tous les discours religieux extrêmes que vous avez déjà entendus, là, de la part de sectes comme les Raéliens et ce qu'on voit aussi dans Far Cry 5. Puis, ben oui, c'est une autre dynamique de propagande, effectivement, où on va prendre un discours, on va construire un discours, on va l'institutionnaliser en une secte religieuse. Les membres vont être fidés par ce discours-là. Et après ça, ben, comment ils vont le recevoir? C'est qu'ils vont se penser comme étant des disciples religieux qui suivent un élu, là, finalement. Les gens qui adhèrent à ça. Donc, effectivement, il y a un effet de propagande avec un discours qui vient fider les gens qui le reçoivent, finalement. T'sais. Fait que oui, ton exemple est très bon également, Ghost. Je suis en informatique et beaucoup en sécurité, je peux t'en parler longtemps des Russes et la cybercriminalité. Ça, tu vois, la cybercriminalité, c'est un autre concept. Tu sais, on avait la cyberviolence, mais la cybercriminalité, c'est que là, dans le fond, à la dimension numérique de ma définition là, du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse française, là, on pourrait ajouter toute la dimension de perpétrer un crime et de criminaliser finalement une violence ou un acte. Mais là, ça, c'est un autre dossier, c'est carrément autre chose, là, fait qu'on va se concentrer vraiment sur la cyberviolence. Mais oui, c'est une autre dimension qu'on pourrait amener, effectivement. C'est négatif envers les hommes aussi, son discours, là. Je voulais juste un exemple pour bien intégrer mon apprentissage. Oh oui, c'est négatif envers les femmes, très évidemment, mais c'est aussi négatif envers les hommes. Oh oui, tout à fait. Parfait, je comprends bien les notions, merci, tellement intéressant. Ah, merci Mimi, merci beaucoup. J'aime tes commentaires, hein, très pertinents. Salut Prometheus, les annonces de produits qui disent que leurs produits, c'est les meilleurs. Ça, c'est de la propagande, mais c'est pas un discours de haine, par contre. Faut faire attention. Parce que si on se rapporte au discours de haine, c'est tout type de communication ou de comportement qui va constituer une atteinte. Utiliser un langage péjoratif, les mots-clés sont importants ici, là. Une atteinte, langage péjoratif, discriminatoire. Ça, c'est un discours de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, genre, appartenance religieuse. Fait que, quand on parle de discours de haine, on parle vraiment de discours d'un type de communication orale ou écrite qui va être péjoratif, discriminatoire et qui va porter atteinte à quelqu'un. Ça, c'est un discours de haine. Mais, il y a un discours également, là. Si on enlève un peu cette définition-là, on enlève la haine et ça devient un discours, simplement. C'est ça la différence. Il faut vraiment faire attention aux mots-clés. Et voilà pour la définition de la propagande. Fait que on va prendre une petite pause. Je vais prendre le temps de lire un peu les commentaires, boire un petit peu de mon restant de café. Puis après ça, on va passer sur le sujet de comment tout ça se concrétise en fait dans un cas vraiment ancré dans l'histoire. Déjà, je vois que vous commencez à faire des liens dans le chat, puis je vois que vous m'avez amené différents exemples actuels et passés. Puis c'est vraiment très bien, là. C'est vraiment l'exercice que je voulais vous amener à faire aujourd'hui, là, justement. Ou même le 6 avec le régime totalitaire. Le 6, qu'est-ce que tu veux dire? Cool, c'est ça que je pensais, merci. C'est qui, Andrew Tate? Mimi a répondu. Non, je parlais juste pour la propagande. OK, ouais. Ben, effectivement, là, dans ce cas-ci, on peut parler de propagande, mais je parlerai plus de promotion parce que la propagande amène quelque chose de négatif. Ça vise vraiment à amener une doctrine collective puis vraiment à faire en sorte que cette idée-là gagne et que tout le monde l'adopte. Tandis que la promotion, c'est juste de dire... Tu sais, il y a un effet négatif à la propagande, tandis que la promotion, il peut y avoir un effet positif au sens où tu fais juste comme promouvoir un produit. Exemple, je vais me prendre moi-même en exemple. Tu sais, je suis un créateur de contenu. Mon but en tant que créateur de contenu qui est régulier sur Twitch ou sur Internet, c'est de faire en sorte que mon contenu soit le plus promu possible, que j'aille les meilleurs stats possibles et que j'aille la plus grosse communauté possible, tu sais, pour vraiment que ma chaîne grossisse puis vraiment qu'on aille plus loin, entre guillemets, en termes de vraiment rassembler une communauté, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, comme créateur de contenu, mon but, c'est de promouvoir mon contenu. C'est de promouvoir ce que je fais ici puis de faire comme « Venez tout le monde, venez-vous-en, on a du fun puis on apprend des trucs puis... » Tu sais, j'ai comme une ligne directrice pour dire « On a du fun, on apprend des choses, je suis historien, nanana, tu sais. » Tout ce que vous m'entendez dire d'habitude. Puis mon but en faisant cette promotion-là, at large, c'est de fédérer des gens et de faire en sorte que les diablotins historiques, on soit le plus nombreux possible, tu sais. Sans avoir d'attente non plus, là, mais c'est d'être vraiment le plus nombreux possible. Ben, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de propagande ou de promotion? Moi, je parle, en tout cas, selon ma vision, là, moi, je parlerais plus de promotion. Mais si on parle de propagande, c'est qu'on essaie de prendre une idée puis vraiment, tu sais, de la pousser au coton, là, puis vraiment d'amener un effet où t'as pas le choix d'adopter l'idée. Je pense que la propagande, c'est vraiment ça. C'est que ça vise à tellement promouvoir l'idée qu'on te laisse quasiment pas le choix de l'adopter. T'sais. En tout cas, on essaye de pas te donner le choix. C'est un peu ça, je pense, la différence. Puis là, c'est une définition très résumée puis très sommaire de ce que Hitler faisait dans son livre. Mais ça vient un peu de ça, là, finalement. C'était quoi le discours nazi à l'époque? Le discours nazi, en fait, s'axait sur trois réalités, trois points vraiment névralgiques. Donc, le premier point, c'est la rancœur de la défaite de la Première Guerre mondiale. Le deuxième, les mythes et légendes nordiques et germaniques. Et la stigmatisation des peuples différents. Fait que là, si on y va sur le premier point, puis là, ici à droite, vous voyez justement une des images de propagande allemande à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier point, la rancœur de la défaite de la Première Guerre mondiale. C'est caractérisé par différents éléments. Premièrement, le fameux coup de poignard à la nation. Vous n'êtes pas sans savoir que Adolf Hitler a participé à la Première Guerre mondiale. Il était soldat dans l'armée allemande, dans la guerre de 14-18. Et la guerre de 14-18, je ne sais pas si vous avez un peu de notion de la Première Guerre mondiale, mais pour vous le rappeler rapidement, la Première Guerre mondiale s'est soldée par la reddition des forces qui était centré autour des alliés, justement, allemands et autrichiens. Donc, essentiellement, c'était l'Autriche contre la Serbie et tous leurs alliés. C'est un peu comme ça qu'avait commencé le premier, la Première Guerre mondiale en 1914, après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, à Sarajevo, en Serbie. Et par après, ça a déclenché une réaction en chaîne d'alliés de part et d'autre qui voulaient supporter leurs puissants alliés, ce qui a causé la Première Guerre mondiale. Mais suite à ce conflit-là, on a décidé que le bouc émissaire coupable de la guerre, c'était l'Allemagne. Et vu que l'Allemagne envoyait le gros des troupes là, justement à l'Autriche et qui pilotait beaucoup là, d'opérations militaires, on a finalement décidé que c'était l'Allemagne qui était la grande responsable de la Première Guerre mondiale, qui était supposée être la dernière de toutes les guerres. Donc à ce moment-là, en 1918, on était mindé, on se disait « on veut plus que ça arrive, on veut plus de grand conflit mondial comme ça » et on décide collectivement que l'Allemagne est la grande coupable. Fait que là, au traité de Versailles, qui est vraiment le traité de paix en fait qui a été signé avec toutes les nations suite à la Première Guerre mondiale, suite à la reddition de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, ben, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'Allemagne a été reconnue comme étant la grande coupable. Ils ont reçu énormément de sanctions financières et militaires et économiques qui vraiment les restreignaient à fond. J'ai pas les détails de toutes les restrictions, là. Mais dites-vous, en gros, que ils pouvaient pas accumuler de l'argent passer un certain seuil, ils pouvaient pas avoir une armée passer un certain seuil. Ils étaient vraiment limités partout, en réalité, dans leur évolution de société. Et à ce moment-là, ça les limitait vraiment beaucoup. Et ça allait déjà pas bien par après, là, dans les 15 années qui ont suivi. Et ça a été pire quand est arrivé le crash boursier de 1929 et la grande crise économique, justement. C'est ça qui a un peu mis le feu aux poudres progressivement. Puis qui a mené à l'élection d'Adolf Hitler comme chancelier, à la montée du nazisme et au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et que ça a causé un peu une réaction en chaîne dans tout ce contexte-là. Mais le coup de poignard à la nation, en fait, c'est l'idée comme quoi, après la reddition de l'Allemagne et la signature du traité de Versailles, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Allemands adhéraient à la thèse qui se propageait de plus en plus au sein de la population, comme quoi les dirigeants de l'Allemagne nazie à l'époque avaient donné un coup de poignard dans le dos à la nation allemande en se rendant aux alliés à la Première Guerre mondiale et en, finalement, c'est ça, en laissant tomber les armes et en mettant fin à la guerre. Parce que selon eux, ils pouvaient encore gagner, c'était encore possible justement de vaincre dans cette guerre-là. Et à ce moment-là, justement, ils se disaient « Les dirigeants nous ont donné un coup de poignard dans le dos, ça n'a pas de bon sens, puis il faut protester contre ça. » Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments qui caractérise un peu le discours nazi. Le deuxième, c'est le révisionnisme massif sur les causes de la défaite. Il y avait plusieurs raisons de la défaite, en fait, là, justement, des forces allemandes et autrichiennes. Et justement, il y a eu tout un mouvement qui a commencé en lien avec le coup de poignard donné à la nation, la fameuse idée. Puis il y avait même beaucoup de propagande, hein, beaucoup d'images de propagande où tu voyais les chefs allemands qui poignardaient, qui avaient un poignard dans les mains, puis là, tu voyais l'Allemagne en arrière, puis tu voyais que le dirigeant avec le couteau, il allait comme faire un mauvais coup. Là, ça disait « Nos dirigeants nous ont trahis, le coup de poignard à la nation », bref, t'avais comme toute cette idée-là. Et ça a amené vraiment un révisionnisme massif sur les causes de la défaite, pour dire « On aurait pu gagner, on n'a pas perdu en réalité, c'est une conspiration des forces alliées qui ont forcé nos dirigeants à abdiquer, nos dirigeants ont collaboré avec les puissances alliées, ça n'a pas de bon sens, puis notre régime est mis à mal, puis nos dirigeants, on leur fait plus confiance ». Fait que méga révisionnisme, là, quand même très, très caractérisé. Et le troisième, c'est la remise en cause du traité de Versailles. J'ai parlé des causes du traité de Versailles, comme quoi ça limitait énormément la société allemande. Ben, avec le coup de poignard, avec le révisionnisme, est venue aussi une grande remise en cause du traité de Versailles et une remise en question totale pour dire le traité de Versailles, on ne veut plus le respecter. On veut vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, on veut être indépendant, on veut plus avoir de restrictions comme on l'a depuis 1918. On veut, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on veut se prendre en main puis vraiment mettre fin aux restrictions du traité de Versailles. Surtout rendu en 1929 avec le crash boursier, la crise économique. Les autres pays avaient de la misère, l'Allemagne c'était pire à cause du traité de Versailles. Littéralement, t'avais des gens qui mangeaient dans les poubelles tellement ils étaient plus capables de rien s'acheter à manger, les prix avaient tellement explosé qu'ils en étaient rendus vraiment à manger dans les poubelles, il n'y avait plus de travail nulle part. La société prospérait pas, ils étaient vraiment dans le trou, là, carrément, comme on le dit en bon québécois. Fait que là, tout ce contexte-là entourant la défaite de la Première Guerre mondiale, c'est ce qui a donné, je vous dirais, le contexte autour de la montée du nazisme. La société allemande était prête à recevoir des idées extrêmes comme le discours nazi. Parce que, il était acculé au bord du mur. Il n'y avait plus d'argent, plus d'armée, plus de job. Il n'y avait plus rien, plus de marge de manœuvre. Il était complètement à terre. Fait qu'il était vraiment réceptif aux idées, là, justement, extrêmes comme celle du discours du Parti national socialiste. Le deuxième point qui est très important sur la philosophie en fait qu'adoptaient justement les nazis, c'est les mythes et légendes nordiques et germaniques. Hitler était un fan fini des chansons de Richard Wagner, entre autres la fameuse Marche des Valkyries. Vous l'avez probablement tous déjà entendu sans savoir que c'était ça, là. Ta 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 ta. Puis toute la grande montée, là, finalement, de cette musique-là, c'est une très bonne musique. Mais Richard Wagner aimait beaucoup écrire sur les mythes et légendes nordiques. Et, entre autres, la Marche des Valkyries, ben, c'est vraiment, selon lui, une manière d'illustrer comment les Valkyries descendaient sur le champ de bataille, récoltaient les armes des guerriers morts, à l'époque viking, et chez les populations germaniques. La culture nordique et la culture germanique sont très, très proches les unes des autres. Autant les pays scandinaves que les pays un peu plus du nord de l'Allemagne, vraiment, là, étaient très, très proches en termes de culture. Et ils avaient sensiblement le même panthéon divin, juste avec des noms différents. Puis il y avait souvent des héros, des mythes et des légendes qui étaient comme Beowulf, que vous avez peut-être entendu parler. Et ben justement, avec toute cette musique-là et cette construction des mythes et des légendes nordiques et germaniques, Hitler aimait beaucoup les histoires de guerriers comme Beowulf, comme Parsifal, qui est un héros allemand là, justement sur lequel il y a une grande légende. Parsifal qui est un peu l'idéal du grand guerrier. Hein. Grand, blond, beau, fort, qui combat des ennemis, puis qui a été utilisé à travers le 19e siècle un peu comme une espèce de héros de la nation. Et la race aryenne, qu'est-ce que c'est? La race aryenne, c'était vraiment l'idéal que vous voyez à droite. Si vous voulez une image de qu'est-ce que c'était la race aryenne pour Hitler et les nazis, vous l'avez exactement ici à droite. Ça là, c'est la famille aryenne parfaite. Puis eux autres, ils voulaient que tout le monde en Europe occidentale ressemble à ça. Moindrement tu dérogeais de ce modèle-là que vous avez à droite, t'étais un ennemi de l'État. Et il fallait t'éliminer. Aussi simple que ça. Et en réalité, la race aryenne, il y a quelque chose de très ironique là-dedans. Parce que les vrais aryens ont réellement existé. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, en fait, si vous n'avez pas étudié ça. Là. Moi, j'ai appris ça dans un de mes cours à l'université. Les aryens, en réalité, là, ils vivaient dans le nord de l'Inde, dans la vallée comprise entre le Gange et l'Indus, les gros fleuves, là, finalement, qui traversent l'Inde. Et c'était un peuple qui s'appelait carrément les aryens, A-R-Y-E-N-S. En tout cas, comme on l'écrit en alphabet, en alphabet latin. Et c'était vraiment une population qui est un peu, on va dire, un des ancêtres des populations indiennes. Et là, ben finalement, ce nom-là, ce discours-là, était complètement retwisté par le régime nazi. Parce que les nazis, ça c'est aussi un autre point qui est très important, ils aimaient ça, twister l'histoire et l'archéologie à leur avantage. Ils avaient même des divisions administratives, publiques, gouvernementales, dédiées à débusquer des trouvailles archéologiques et muséales et historiques, pour carrément retwister l'histoire pour dire « Ben regardez, ça c'est pour promouvoir le peuple aryen, ça c'est pour promouvoir tel guerrier. Ça montre qu'on a raison, le passé nous donne raison. » Fait que là, littéralement, il racontait n'importe quoi là, sur n'importe quelle trouvaille historique ou archéologique pour dire « Ça correspond à notre discours, on a raison de le faire. » Fait que voilà, les mythes et légendes nordiques et un peu la transformation de l'histoire aussi que j'aurais pu amener. Et avec ça, ben ça amène aussi une stigmatisation des peuples qui sont jugés comme étant différents. Différent du modèle que vous voyez à droite. Donc, ainsi va le discours des nazis. C'est là toute l'idéologie, en fait, national-socialiste, et c'est très différent du fascisme. Le national-socialisme est fasciste, mais toute la dimension raciale autour des mythes et légendes nordiques, le peuple aryen, puis vraiment toute cette dimension-là, on va dire un peu plus raciale, ethnique et historique, ça, c'est vraiment les nazis qui l'ont amené. Mais le fascisme existait avant Hitler. Il a été inventé, entre autres, par Benito Mussolini. Qui est vraiment, on va dire, l'inventeur du fascisme. Mussolini, qui était le leader dictateur de l'Italie, allié à Adolf Hitler, d'ailleurs un très proche ami de lui. Mussolini, en plus, c'est drôle parce que c'était un communiste avant qu'il vire fasciste. Donc, quand même assez spécial là, comme transition. Il était d'extrême gauche avant de virer d'extrême droite. Passer d'un extrême à l'autre. Mais c'est ça. Puis le fascisme, en vrai, ça se caractérise vraiment. C'est carrément autre chose que le fascisme. Là, on pourra peut-être y revenir dans une autre chronique. Mais oui. Le national-socialisme, donc le discours nazi, avait une base fasciste. Il était d'extrême droite, mais la particularité du national-socialisme, c'est vraiment toute la dimension raciale et culturelle qui a été amenée, qui n'était pas dans le discours fasciste d'origine par Mussolini en Italie. Fait que ça, retenez ça pour vraiment différencier les deux. Slash Gamer, salut à toi, excusez, je rattrape un petit peu le chat. Admettons que tu dirais que ton stream, c'est juste ici qu'on peut avoir du fun, puis tu nommerais d'autres streams où est-ce qu'on pourrait pas avoir du fun. Dans ce cas, est-ce que ça serait une forme de propagande et non de promotion? C'est sûr, Prometheus, que si je disais, mettons, qu'il n'y a que sur mon stream qu'on peut avoir du plaisir, alors que c'est pas vrai, sur d'autres streams, on peut avoir du fun aussi, on peut dire que ça pourrait être une sorte de propagande, parce que là, j'amènerais un élément négatif de caler les autres lives pour promouvoir le mien. Fait qu'à la limite, ça pourrait peut-être être vu comme de la propagande, ouais. Ça serait à creuser, honnêtement, là, je suis pas trop sûr des nuances. Mais effectivement, c'est une très bonne question, ça pourrait peut-être amener ça, ouais. Organisme de bienfaisance. L'Allemagne a mangé une grosse volée et s'est vue être déclarée unique responsable. Elle devait payer les dettes et être démilitarisée. Traité de Versailles. Ouais, voilà, exactement. Merci pour le résumé, les histoires. Ghost qui est parti, je l'ai manqué. Salut Ghost, à tantôt. On estime que le chômage touchait au moins 40 à 50% de la population. C'est vraiment énorme. Maurice Demers, histoire de l'époque contemporaine. Devait être très blond caucasien, ça. Ouais, effectivement, Mio. Tout à fait, ils font partie des Indo-Européens qui sont descendus vers l'Inde pour s'y installer dans la partie nord, tandis que dans le sud, on y retrouve les Dravidiens. Ah, les Dravidiens, tu vois, je connaissais pas le peuple du sud. Salut Drift, comment ça va? Donc, maintenant qu'on a élaboré quel était le discours nazi, ben, un des points névralgiques, en fait, du discours de haine et de la propagande nazie, c'était la haine des Juifs. Les Juifs qui représentaient l'ennemi numéro un selon Hitler et les nazis. Mais par contre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la haine des Juifs et la ségrégation des Juifs n'a pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale. Ça date d'aussi loin que l'Antiquité et c'est devenu un peu plus intense au courant du Moyen-Âge. On remonte à 1095, à l'époque des premières croisades. C'est là qu'on a eu les premiers pogroms contre les Juifs à partir de 1095. Qu'est-ce que c'est un pogrom? Un pogrom, grosso modo, c'est vraiment un rassemblement de personnes qui ont un discours de haine, évidemment, qui visent une personne ou une communauté et qui s'en vont en masse. T'sais, imaginez un peu la masse de paysans avec des torches et des fourches qui s'en vont finalement faire une espèce de razzia, une espèce de raid chez, par exemple, un quartier où il n'y a que des Juifs, exemple. Et là, ils vont rentrer dans les maisons, ils vont attaquer ces personnes-là, ils vont les amener avec eux, les forcer à faire des choses, en tout cas, bref. Le pogrom, c'est vraiment quelque chose d'horrible, en gros. Fait que bref, on a eu les premiers pogroms, les premières attaques, on va dire, là, ciblées contre les Juifs à partir de 1095. Les informations que je vous ai mis là, puis c'est pour ça que je les ai mis en guillemets, c'est tiré d'un article du National Geographic de Didier Lette qui parle finalement là, de la haine des Juifs au Moyen-Âge. Il disait « En 1095, des chrétiens tuent des Juifs, les forcent à se baptiser et accaparent leurs biens. Des penseurs chrétiens écrivent des traités qui visent à dénoncer leurs erreurs. » Leurs erreurs, c'est-à-dire d'être Juifs. Pendant la peste noire, on remonte à peu près 300 à 400 ans plus tard, les persécutions vont s'accentuer. En 1321, les Juifs, comme les lépreux, sont accusés d'empoisonner les puits. On pense qu'ils ont volontairement propagé l'épidémie. Donc là, déjà, la construction d'un mythe, la construction d'un discours de haine autour des Juifs, on voit qu'elle commence déjà à cette époque-là. Parce qu'il y a la peste noire qui arrive, on essaie de trouver des coupables, on met ça sur la faute à qui? Les Juifs. Aussi simple que ça. Et ce discours-là, ben, ce principe-là, en fait, de trouver un coupable pour un problème de société, ou une maladie, ou une épidémie, il revient après, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on fait un lien. Parce que ben, les Juifs étaient vus comme étant le principal bouc émissaire, le principal coupable de la crise économique, le principal coupable de la défaite de la Première Guerre mondiale, le principal coupable de tous les maux qui accaparaient les Allemands à l'époque. C'est vraiment là-dessus, parce que ça leur prenait un coupable à cibler, hein. Parce que pour qu'une propagande négative, fidée par un discours de haine et une violence, puisse se propager rapidement, il faut trouver un coupable, il faut trouver un ennemi à détester. Et à ce moment-là, ben, Hitler, qui avait un historique avec les Juifs, lui-même était à moitié juif. Et il y a beaucoup de théories qui pensent que parce qu'il a vécu des mauvaises expériences familiales, ben, à ce moment-là, il y en avait contre les Juifs et que c'est venu de là. Mais comme vous voyez, en fait, il a vraiment pris une haine historique contre une population qui était quand même assez nombreuse en Allemagne, pour dire « ces gens-là, c'est eux autres les coupables ». Puis en même temps, ben, il y avait un historique personnel relié à ça, donc c'est un peu comme différents éléments de contexte qui viennent s'ajouter à ça. Et donc, ce qu'on voit finalement à partir de 1095, 1348, 50 et en évoluant à travers le temps, ben, c'est qu'il y a plusieurs préjugés, interdictions, pogroms et menaces qui sont faites en Europe au fil du temps contre les Juifs. On leur interdit même l'accès à la rue le dimanche parfois. Eh oui, parce que le dimanche, pour les chrétiens, c'est le jour du Seigneur. Hein? Et quoi de pire que de voir des Juifs se promener dans la rue en plein public, devant des chrétiens qui vont aller contempler, de voir des Juifs se promener dans les rues de la ville un dimanche. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Ça va loin à ce point-là.
Je m'étais assoupi.
Donc voilà, une haine des Juifs finalement qui date de quand même assez loin. Le ministère de la Culture et de la Propagande. Je vais laisser l'idée vraiment rentrer dans votre tête. À l'époque, au début du régime nazi, quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, Hitler a instauré un ministère de la culture et de la propagande. Imaginez, là, tu sais, présentement au Québec, on a un ministère de l'éducation. C'est comme si, mettons, François Legault, décidait de fonder un ministère de la culture et de la propagande et de leur donner pour mission « Prends cette idée-là, va la répandre auprès de la population » à travers tous les canaux de communication possibles. C'est carrément ça qui s'est passé à l'époque. Fait que bref, fondé dans les années 30 après la prise de pouvoir de Hitler, sa mission, véhiculer la doctrine nazie par l'intermédiaire des arts, de la musique, du théâtre, des films, des livres, de la radio, des documents pédagogiques et de la presse. Le ministère de la propagande est partout et il est dirigé par l'homme que vous voyez à droite sur la photo à droite de Hitler, Joseph Goebbels, que vous avez peut-être probablement entendu parler. Joseph Goebbels qui est un fanatique total. Au départ, il commençait, il était très méfiant de Adolf Hitler quand il avait rejoint le NSDAP, donc le Parti National Socialiste, qui était issu du Parti Ouvrier Allemand que Hitler, lorsqu'il s'est joint et qui est devenu un peu leur orateur, leur leader, ben, il a retransformé en Parti National Socialiste. Quand il a été membre, au début dans les années 20 et 30, avant la prise de pouvoir de Hitler, il était assez méfiant de Hitler. Mais au fur et à mesure de parler avec lui et de voir un peu ses discours et tout ça, il a fini par littéralement devenir un de ses plus grands fanatiques. Et il était fanatique au point où, en 1945, Goebbels, entre-temps, il s'était marié et il avait eu 6 enfants avec sa femme, qui était une aristocrate bourgeoise, blonde, allemande, tout ce que le plus typique, là, de gens qui supportaient le fascisme allemand à l'époque. Ils ont eu 6 enfants ensemble et ils ont eu une fin assez tragique. En 1945, lorsque les Alliés rentraient dans Berlin et que la guerre était pas mal terminée pour les Allemands, comme vous le savez, Hitler, dans son bunker, s'est suicidé. Tout de suite après son suicide, il y a plein de personnes qui ont adopté exactement le même geste, dont Joseph Goebbels et sa femme. Ils ont pris des pilules de cyanure, ils se sont tirés une balle et ils ont fait exactement la même chose envers leurs enfants. C'est-à-dire qu'avant de se tuer eux-mêmes, ils ont tué leurs 6 enfants et ils se sont donné la mort eux-mêmes par après. À la fin du régime nazi. Donc une fin quand même assez tragique. Et c'est pour vous montrer à quel point ils étaient fanatiques au point où ils ont carrément tué toute leur famille ainsi qu'eux-mêmes par après. Et c'est pas les seuls, Mimi, hein, c'est pas les seuls. Il y a Joseph Goebbels et sa femme qui ont fait ça, mais il y a plein d'autres chefs du régime nazi qui ont fait exactement la même chose. Donc, c'est ça. Sa mission, en fait, la mission du ministère de Joseph Goebbels, c'était de promouvoir la culture. Et je mets des guillemets à la culture parce que c'était la version nazie de la culture. On le voit ici à côté, là, finalement, de plein de producteurs cinématographiques, avec Adolf Hitler également, l'homme central en question de tout ce régime-là. Et on le voit en fait, là, je pense que c'est au lancement d'un film, là, justement, d'un film de propagande du discours nazi, là, justement, contre les Juifs. Donc, la mission du ministère, en fait, c'était de véhiculer la doctrine nazie par l'intermédiaire des arts, de la musique, du théâtre, des films, livres, radio, documents pédagogiques et de la presse. Donc, tout ce qui est vraiment culture, journalistique et pédagogique. Donc, tout ce qui permet de transmettre et d'enseigner l'information, ils en avaient le contrôle. Moindrement, un média voulait déroger du discours de base, ils ne pouvaient pas le faire. Il ne pouvait pas le faire et il était tout de suite sanctionné, fermé et réprimé par le régime. Donc à ce moment-là, vraiment, le régime nazi, ils avaient un contrôle total là, sur la société allemande. Moindrement, on essayait d'adopter un discours qui ne fitait pas dans le moule du nazisme à cette époque-là. On se faisait descendre, littéralement. Là, on se faisait cancel, on se faisait descendre et on se faisait supprimer. Là. C'était vraiment un régime totalitaire là, dans toute la forme. Et donc, Joseph Goebbels a été à l'initiative de l'élimination des influences juives et anti-allemandes des institutions culturelles de l'Allemagne nazie. Il faisait souvent des discours comme quoi il parlait que le juif était vraiment au centre de toutes les conspirations mondiales. Il était au centre de la montée du communisme. Il était au centre de la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Il était au centre de tous les problèmes économiques et sociaux de l'Allemand. Et il se servait de son ministère pour propager cette idée-là chez les Allemands comme quoi les juifs étaient les coupables de tout. Littéralement. C'est la cancel culture sur les stéroïdes, c'est exactement ça, M. Melick. Rajoute à ça un discours de haine, une propagande institutionnalisée, puis un régime totalitaire, et t'as la cancel culture boostée sur les stéroïdes dans sa pire des formes. C'est littéralement ça, M. Melick. Fait que voilà, puis quelques exemples de propagande, en fait, j'étais rendu pas mal là pour la fin de ma chronique. Je vais vous montrer quelques exemples en fait de propagande, puis on pourra fouiller un peu plus sur le web là, si vous voulez en voir d'autres. Quelques exemples là, finalement de propagande nazie à l'époque. Donc là ici vous en avez 3. La première, on voit ici une main qui pointe du doigt, probablement une main allemande, qui déclare que cet individu-là justement représente un peu la guerre, le conflit. Et là on voit justement une espèce de petit homme qui a l'air quasiment du pingouin dans Batman. Qui est avec son chapeau de forme habillé un peu bourgeois, avec une étoile jaune de juif, la fameuse étoile de David, que les juifs étaient obligés de porter à l'époque de l'Allemagne nazie pour qu'on puisse les identifier et mieux les persécuter à l'époque. Et là, on le voit justement avec son visage un peu négatif, son nez crochu, son sac d'argent dans les mains qui est comme « touche pas à mon argent ». Un espèce de séraphin poudrier mélangé à un Batman, à mélanger un pingouin dans Batman. C'est un peu ça qu'on voit. Et là, il pointe en disant « Ceci est l'ennemi de la nation ». Donc ça, c'était une affiche qui était légale et permise à l'époque du régime nazi qui était propagée partout. Ici, on parlait de cinéma. Ben là, je vais vous grossir peut-être un peu plus l'image. On a justement « Der ewige Jude ». Ça, c'est un avec l'étoile de David et plein de caricatures de juifs. C'est un livre, en fait, qui... c'est pas un livre, en fait, c'est un film. C'est un film documentaire, en fait, qui a été fait par le cinéma du ministère de la propagande de Goebbels, qui, justement, présentait les Juifs comme étant un peuple négatif qui était à l'origine de tous les maux. Dans le fond, c'est vraiment un film de propagande qui passait dans les cinémas allemands là, de l'époque. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une boutique, photo d'une boutique juive, qui est étiqueté avec Der Stürmer, qui était, puis plein de propagande juive, en fait, qui était vraiment un des journaux, en fait, un des organes principaux journalistiques pour propager le discours nazi et la haine des Juifs. Ces exemples-là, moi, je les trouve vraiment parlants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque comme réaction. Mais moi, quand je vois ça, si je m'en reviens vraiment aux trois définitions qu'on a établies un peu plus haut, soit celle de la cyberviolence, du discours de la haine et de la propagande, ben, ces trois définitions-là, on les voit vraiment dans un cas concret et institutionnel, direct dans notre face. On voit des affiches de films, des affiches officielles de propagande qui étaient autorisées, légales et appliquées à toute la société à l'époque, en Allemagne, justement à l'époque dans les années 30-40. Fait qu'à ce moment-là, on voit vraiment se concrétiser les définitions qu'on a posées tantôt. Enlever le mot « cyber » de la première définition là, de « cyberviolence », parce que, évidemment, le numérique n'existait pas à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les médias sociaux. Mais on prend les médias de l'époque, journalistiques, le cinéma, les arts, les journaux, et on a une initiative de cyberviolence, entre guillemets, ou violence artistique, journalistique, feedée par un discours de haine et institutionnalisée par toute une opération de propagande à l'échelle sociétale. Fait que, littéralement, là, je vous dirais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cyberviolence. Puis c'est sûr que, à part peut-être dans certaines sociétés où c'est beaucoup plus grave, ben là, vous avez vraiment un exemple parfait de comment un discours de haine, un acte de violence et une propagande peut être appliqué à l'échelle complète d'une société et devenir quelque chose de normalisé, là, finalement, par un régime en place au pouvoir. Fait que c'est vraiment un exemple, en fait, de la cyberviolence, de la violence, de l'intimidation, du discours de haine poussé par une propagande à l'échelle nationale d'un pays, d'une société. Fait que ça, c'est vraiment le pire exemple extrême de ce que ce genre d'acte-là peut donner. Et aujourd'hui, la différence, c'est que ce genre d'acte-là existe encore, mais c'est juste qu'il est moins accepté, il est plus balisé, on le repère un peu plus facilement à cause des leçons dont on a tiré de l'histoire. C'est à ça que ça sert hein, d'étudier de l'histoire, c'est pour apprendre du passé, pour être capable de repérer les potentiels signes de retour de ce genre d'initiative-là, t'sais. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire normalement. Et ben, la différence aujourd'hui, c'est que justement, on a moins d'opérations globales comme ça, ou du moins pas légalisées ou officialisées. On a des opérations globales de ce genre-là, mais elles sont tout de suite stigmatisées, puis vraiment stoppées et mises au rencard, là, justement, de la société. Et la différence, c'est que là, maintenant, en 2023, avec tout ce qu'on a de moyens technologiques et numériques, ben, la propagation de ce genre d'idées-là, à laquelle, malheureusement, il y a encore des gens qui adhèrent, se fait peut-être un peu plus facilement par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Autre qu'une connexion Internet et un ordinateur, une tablette ou un cellulaire, ben, ils peuvent continuer à propager ce genre d'idées-là, puis stigmatiser des gens basés sur la race, l'ethnie, la religion, le genre. Ça peut être encore possible. C'est moins permis, moins légalisé et moins accepté par beaucoup de gens comme ça l'était à l'époque du régime nazi. Mais ce que je vous amène à faire en fait en vous montrant cet exemple-là, c'est que à travers l'histoire, on a eu plein d'exemples de discours de haine, d'actes de violence poussés par de la propagande. Et que on peut dire que tous ces actes-là, que ce soit à l'échelle collective ou que ce soit à l'échelle individuelle ou d'un petit groupe, ben on veut dire que c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on vit aujourd'hui avec les enjeux de la cyberviolence, de la cyberintimidation, la cybercriminalité. On peut dire que ça part un peu de ça. J'essaie pas de dire que l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale a amené tout ça. C'est un des nombreux exemples qu'on a. Pas forcément relié là, à l'antisémitisme et au nazisme. J'ai pris cet exemple-là parce que là, on va jouer à un jeu qui se rapporte vraiment à ce contexte historique-là tantôt. Mais c'est pour vous montrer un des nombreux exemples où Le discours de haine et la violence, poussé par de la propagande, a été vraiment amené à l'extrême par le passé et pour faire un lien avec aujourd'hui, justement pour montrer où est-ce qu'on en est rendu maintenant, avec là, la cyberviolence où on a plein d'actes, que ce soit macro ou micro, d'intimidation, de violence et d'agression, que ce soit envers des femmes, que ce soit envers des minorités, que ce soit envers des gens pour leur appartenance religieuse, parce qu'ils portent un vêtement distinctif, ou pour peu importe la raison, ben, on a ce genre de discours-là qui arrive en société et qui est poussé plus facilement par certains individus grâce au pouvoir que nous donnent l'Internet et les médias sociaux. Donc à ce moment-là, ben, étudier l'histoire et de relier ça au présent comme on le fait là, c'est vraiment pour faire un lien puis montrer qu'on est parti de loin, on a eu des exemples terribles à l'époque et qu'aujourd'hui, que ce soit micro, je pense qu'il faut tous se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Comment je peux faire pour faire en sorte que la cyberviolence, il n'y en ait plus? » Ben, c'est en faisant des gestes au quotidien. Que ce soit en propagant des messages positifs sur les plateformes numériques et dans la sphère publique, que ce soit en disant à quelqu'un que vous connaissez, que ce soit un créateur de contenu, un ami, un membre de la famille, peu importe que vous l'aimez, que vous l'appréciez, c'est de feeder l'Internet, de feeder l'outil, parce qu'au final, les plateformes numériques, c'est un outil. C'est vraiment de les feeder avec des messages de positivité, d'amour, et des messages comme quoi, justement, tout message de haine et de violence ne passe pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell_frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.